Chapitre 7. Avez-vous eu, vous, une mère? Savez-vous ce que c'est que d'en avoir une? Victor Hugo. Le jour commençait à poindre quand ma mère sortit de son évanouissement. Elle promena dans la chambre ses regards éteints et, me voyant à côté de son grabat, elle me fit signe d'approcher. « Karl, dit-elle d'une voix brisée par la souffrance, je vais mourir. Dans une heure, tu seras seul au monde. » Et tu es bien jeune encore. Écoute-moi donc, mon enfant, et garde dans ton cœur les dernières paroles de Teresa, ta mère. Tu m'as vue, triste, vieille et brisée à 30 ans. Et tu t'es peut-être demandé d'où venait le chagrin de la bohémienne. Pourquoi ses cheveux étaient ainsi blanchis? Pourquoi, mon fils? C'est parce qu'il y a dans l'âme de ta mère une grande haine et une grande douleur. C'est parce que je suis Teresa, et que ton père s'appelle le comte de Rommelstein. Ton père est un lâche, tu le chercheras. Il doit être à Berlin, tu iras le trouver, et tu lui diras qu'assise sur son lit de mort, Teresa l'a maudit. Et puis, quand tu seras devenu grand, tu partiras pour l'Italie. C'est là que tu trouveras ta sœur. Rappelle-toi bien que l'homme qui l'a enlevé est l'assassin de ta mère. Mais il faut qu'avant de me venger, tu apprennes à souffrir. Il faut que tes yeux n'aient plus de larmes. Les pleurs, vois-tu, font pitié aux hommes. Les pleurs sont pour les faibles et pour les lâches. Tu grandiras seul en pensant à ta mère. Tu ne diras à personne que tu souffres, que tu es malheureux. Tu seras fier sous le haillon, comme j'ai été fier sous la honte et l'ignominie. Un jour, tu te lèveras fort, car ton isolement t'aura grandi et tu seras devenu un homme. Pose-toi un but. Marche-y sans t'inquiéter des obstacles. Ne crains rien, rien que la faiblesse et la lâcheté. Si un jour tu fléchis sous l'adversité, si tu sens faiblir ton courage, souviens-toi de Teresa, et tu te relèveras fort comme elle. Adieu. Dis à Maria que je suis morte en la pleurant. Le froid de la mort me glace. Tu prendras cette bague quand je ne serai plus. C'est celle de ma mère. Tu la porteras sur ton cœur. Adieu, pauvre enfant. Songe à la bohémienne qui a beaucoup souffert. Et qui te lègue une haine et une vengeance. » Elle se tut. Je levai les yeux. Sa tête était penchée sur sa poitrine, sa bouche entr'ouverte, ses yeux ternes. Je m'agenouillai et je pleurai. 2 jours après la mort de ma mère, je quittai Aix-la-Chapelle, non plus heureux, non plus indifférent, non plus le Karl des jeux de Maria, mais triste, abattu, le cœur noyé de fiel. Quelques instants d'une grande douleur avaient fait de l'enfant un homme. Les 2 larmes de Teresa m'avaient initié au malheur, et ses adieux m'avaient appris la haine. Je marchais depuis 2 jours, triste et grelottant, l'image de cette grande femme pâle, debout dans mon cœur, et ses dernières paroles sous le front. Je réfléchissais à l'abîme que la mort de Teresa venait de creuser entre mon passé et mon avenir. Puis l'image de Maria passait, rêveuse dans mes yeux. Je voyais sa belle figure encadrée dans ses longs cheveux noirs. Il me revenait parfois des lambeaux de mélodie, des notes étranges de ses vieilles ballades. Hélas, tous ces chants étaient tristes comme le souvenir de ma sœur, et ces notes profondes comme mon désespoir. Je m'arrêtais alors pour essuyer des larmes, car je pleurais, oui, je pleurais malgré les paroles de Teresa. Mais j'étais seul. Je n'avais à craindre ni le dédain ni la pitié. À tous ces souvenirs déjà bien amers, venaient s'en joindre d'autres. Je me rappelais la réponse du prêtre auquel j'avais demandé d'ensevelir ma mère. Un prêtre fier de sa soutane. D'une santé florissante, heureux de se sentir bien vivre. « Ta mère, m'avait-il dit, n'a point de droit à une sépulture chrétienne. Ce serait un sacrilège d'implorer la miséricorde divine pour l'âme des païens. D'ailleurs, à quoi bon? L'enfer ne rend point ceux qu'il dévore. » La bohémienne est damnée irrévocablement, et l'Église n'a point de prière pour les damnés. » Cette réponse de l'homme de Dieu évoquait celle de l'homme du monde. Le propriétaire de la maison, rue Burscheid, après avoir mis le séquestre sur les guenilles et sur la harpe de Teresa, m'avait congédié en me disant qu'il n'était pas assez sot pour me confier une chambre dont il me serait impossible de payer le loyer. J'avais 10 ans alors, et l'hiver était rigoureux. Puis je me rappelais encore l'indifférence de tous ces hommes qui m'avaient vu Moi, pauvre enfant, m'accrocher avec désespoir au cercueil de ma mère, je les voyais détourner la tête, sans doute pour n'être point désagréablement affecté, et chacune de ces pensées torturait mon cœur. Quelle effrayante leçon renfermaient pour moi ces 2 jours. Comme elles étaient tombées jeunes et flétries, les illusions de mon enfance, sous les paroles de ce prêtre fanatique, de ce bourgeois égoïste, et devant l'indifférence de toutes ces faces d'hommes civilisés. Involontairement, je murmurais ces paroles de la bohémienne. « Toi qui souffres, chante et on t'accueillera, pleure et on te repoussera. » C'est au milieu de ces pénibles réflexions que je m'avançais vers Cologne. Depuis longtemps, j'avais perdu de vue les tours de Juliers. Le froid était vif. Je m'arrêtais souvent pour tourner le dos à la bise qui me coupait la figure. De minces vêtements couvraient à peine mes membres engourdis, et parfois je sentais une odeur de neige et de glace me monter au cerveau. La nuit vint. Quelques rares étoiles se montrèrent dans le bleu sombre du ciel. La lune parut, tantôt cachée par d'épais nuages aux flancs neigeux, aux formes bizarres, tantôt découverte, pâle, et versant sur la campagne silencieuse ses rayons blafards. La plaine était déserte. On n'entendait que les plaintes du vent dans les arbres et les aboiements des chiens de ferme, qui semblaient répondre aux gémissements de la bise. Ce deuil morne de la nature, l'âpreté du froid, toutes ces pensées funèbres soulevées par la douleur et la faim, m'abattirent tellement que je fus tenté de m'asseoir au bord de la route et d'y attendre la mort. Je m'arrêtai indécis, mais tout à coup les paroles de Teresa se présentèrent à mon esprit. J'eus honte de ma faiblesse et je poursuivis mon chemin, fort de cette suprême énergie que donne le désespoir. Arrivé au coude formé par la route à la base d'une légère élévation, j'aperçus une grande masse noire gisant dans la plaine. C'était Cologne. Je m'assis sur une borne et je levai les mains au ciel. Jamais situation, heure et lieu ne furent plus propres à inspirer de profondes méditations. Mon âme sembla briser ses chaînes et ressaisir un instant sa liberté. À droite, le Rhin se déroulait dans la plaine. On eût dit un immense boa faisant miroiter ses écailles verdâtres au reflet de la lune. À gauche, les campagnes arides et couvertes de neige allaient se perdre dans les profondeurs de l'horizon. De loin en loin, l'œil découvrait sur cette étendue monotone quelques plantes chétives, quelques arbres rabougris, courbés par le vent du nord. À mes pieds, la vieille cité de Cologne, saisie par l'un des bras du fleuve comme dans un cercle d'airain, présentait à ma vue une masse impénétrable d'où s'échappaient parfois de vives étincelles. Ces lueurs fugitives faisaient jaillir de l'ombre, ici l'arête d'un toit, ailleurs l'angle d'une rue tortueuse et sombre, plus loin, les 1000 fantaisies d'un portail gothique, ses ogives, ses moulures, ses fleurons et ses niches où reposent, délaissées, les idoles du Moyen-Âge. Ce spectacle m'avait fait oublier mes souffrances. Je voulus me relever, mais tous mes efforts pour y parvenir furent inutiles. Le froid avait complètement paralysé mes membres. Je ne souffrais plus. Ma volonté seule restait, mais impuissante à faire mouvoir un corps inerte. J'étais là, sur cette borne, à quelques pas de la ville. À 5 minutes de la vie, comme un homme sous le genou de son meurtrier lorsque le poignard se lève et qu'il voit accourir dans le lointain de tardifs défenseurs. Je jetai un dernier regard plein de haine sur la vieille cité et je fermai les yeux. Au même instant, une voiture attelée de 2 magnifiques chevaux passa comme l'ouragan. C'était mon dernier espoir. Je fis un effort suprême et je me levai en poussant un long cri de douleur. Mais cette fois, mes forces étaient épuisées et je retombai, évanoui sur la glace de la route.